Livre 2, 401-403. L'église d'Éphèse, cette fille bien-aimée de l'apôtre Jean, n'était plus celle de qui il disait dans son Apocalypse, « Écris à l'ange de cette église, je connais tes œuvres, ton travail, ta patience. Je sais que tu ne supportes point les méchants et que souffrant pour mon nom, tu n'as point défailli. » La communauté chrétienne d'Éphèse au 5e siècle était loin de mériter cet éloge. Son ange s'était voilé la face et les enseignements de Simon le magicien y remplaçaient les leçons de Jésus-Christ. La simonie y régnait en souveraine. Tout s'y vendait, tout s'y achetait. L'épiscopat, le sacerdoce, le diaconat, et les dons du Saint-Esprit y étaient tarifiés suivant qu'ils rapportaient. Une corruption égale régnait dans le troupeau et dans le pasteur. La nécessité pour le candidat électif au trône épiscopal d'acheter les suffrages des électeurs créait pour l'évêque élu cette autre nécessité de vendre les ordinations sous peine d'être ruiné, lui, sa femme et ses enfants. C'était un marché convenu, accepté de tout compétiteur. Cependant, on tâchait d'envelopper de secret ces ténébreuses opérations, tant il s'y trouvait de gens compromis. Or, il arriva que dans le cours de l'année 400, un synode de 29 évêques, appartenant presque tous au diocèse d'Asie, se réunit à Constantinople pour des affaires que nous ne connaissons pas. La session approchait à sa fin vers le mois de septembre, lorsqu'un samedi matin, au moment où les évêques allaient passer dans la basilique, l'archevêque devant célébrer le saint sacrifice, un évêque étranger au synode, Eusebius de Valentinopolis, ville des montagnes de Silbia, entra brusquement dans l'assemblée, tenant une requête à la main. Il venait, disait-il, dénoncer les crimes commis en Asie par des évêques et demander au concile justice et répression. Puis, au milieu de l'étonnement général, il déduisit les faits de sa requête. Il accusait un évêque d'Asie, premièrement, d'avoir acheté à beau denier comptant son siège épiscopal et de vendre à son tour l'ordination aux évêques qu'il consacrait afin de rentrer dans ses fonds. Son tarif était réglé d'après le revenu des évêchés dont il ordonnait les titulaires, et ceux-ci à leur tour se récupéraient en vendant le sacerdoce et les sacrements. Deuxièmement, d'avoir fait fondre des vases sacrés pour en donner l'argent à son fils, d'avoir ensuite enlevé de l'entrée du baptistère des marbres dont il avait paré son bain, puis d'avoir transporté dans son triclinium ou salle à manger des colonnes appartenant à l'église et qui gisaient à terre depuis nombre d'années. Troisièmement, un autre fait de vol plus grave et plus impudent, c'était d'avoir aliéné à son profit des fermes léguées à l'église par Basilina, la mère de l'empereur Julien. Quatrièmement, de garder près de lui comme son serviteur, sans l'avoir condamné au moins à la pénitence, un enfant coupable d'homicide. Cinquièmement, d'avoir repris sa femme dont il s'était séparé au moment de son ordination et selon des engagements solennels, de l'avoir rappelée près de lui, d'avoir cohabité avec elle et d'en avoir eu plusieurs enfants depuis son épiscopat. L'évêque dont je parle est ici, ajouta Eusebius d'une voix forte. Le voici, c'est Antonin d'Éphèse. Ceux qui ont acheté de lui leur ordination sont également ici. Et il nomma six autres évêques. Acheteurs et vendeurs du Saint-Esprit siègent côte à côte dans cette assemblée. En prononçant ces paroles, il tendit à Chrysostome, qui présidait, la requête dans laquelle les faits étaient détaillés, la mise en accusation formulée, mais celui-ci refusa de la recevoir. Si tu as quelque raison d'inimitié contre Antonin et les autres que tu accuses, n'agis point dans la colère, lui dit-il, et n'attire point de scandale sur l'Église. Puis il chargea Paul d'Héraclée, qui semblait favorable à Antonin, de travailler à leur réconciliation. Levant alors la séance, Chrysostome passa dans la basilique, suivi des autres évêques du synode, donna la paix au peuple, selon l'usage, et s'assit dans l'abside, entouré de ses collègues, en attendant le moment du sacrifice. Le peuple, cependant, se condensait sous les voûtes du temple, et l'office allait commencer quand on vit paraître de nouveau Eusébius, qui, tenant sa requête à la main, adjura Chrysostome devant l'assemblée d'examiner les faits relatifs à l'évêque d'Éphèse et de ne point commettre un déni de justice dans une affaire qui intéressait le bien de la religion. Il parlait avec une telle animation. Son abjuration était mêlée de serments si terribles, faits sur la tête même de l'empereur, que le public le prit de loin pour un condamné à mort qui suppliait l'archevêque d'intercéder près du prince afin de lui sauver la vie. Cette scène causa dans la basilique un tumulte inexprimable. Pour y mettre fin, l'archevêque s'empara de la requête et, se sentant d'ailleurs trop ému pour célébrer dignement le sacrifice, il pria Panzophius de Pisidie de le remplacer à l'autel. Puis il fit signe aux évêques du synode de le suivre au baptistère, où Eusébius les accompagna. Là, Chrysostome lui reprocha dans les termes les plus vifs l'indiscrétion et la violence de sa conduite. Et comme Antonin et les évêques accusés niaient obstinément les faits articulés contre eux, « Tu dois avoir des témoins, » dit l'archevêque à Eusébius, « car on n'accuse pas ses frères de pareils crimes sans avoir des preuves en main. » Eusébius répondit que sans doute il produirait des témoins quand il le faudrait. « Mais ils sont en Asie, » ajouta-t-il. « Va donc les chercher, » repartit l'archevêque, « et je réunirai un concile pour décider à ton tour entre Antonin et toi. » Eusébius partit, mais ne reparut plus. Ses témoins restèrent aussi invisibles que lui. Antonin, rentré dans ses foyers, avait acheté son silence très chèrement sans doute. Ainsi se passaient les choses dans cette malheureuse église d'Éphèse. Cependant, l'odieux corrupteur mourut, laissant les affaires ecclésiastiques de son diocèse dans un entier désarroi. D'autre part, la ville s'occupant de remplacer l'évêque défunt, on vit se produire des compétitions plus éhontées les unes que les autres. L'argent était semé à pleine main parmi la populace. Des partis ardents se formaient, prêts à combattre, et on pouvait craindre une guerre civile. Les magistrats perdaient la tête. Le clergé se demandait quel nouvel Antonin, sorti de ce chaos, achèverait de dévorer le patrimoine ecclésiastique. Au milieu de l'angoisse universelle, le clergé d'Éphèse et quelques évêques voisins tournèrent les yeux vers Chrysostome, comme vers un sauveur, et l'archevêque de Constantinople reçut une lettre ainsi conçue. Depuis nombre d'années, Père vénéré, nous sommes gouvernés contre toute règle et tout droit. Nous te prions donc de vouloir bien te rendre ici, afin que l'Église des Éphésiens retrouve par tes soins une forme moins indigne de Dieu. Notre malheur est sans égal. D'un côté les Ariens, de l'autre l'avidité et l'ambition des faux catholiques nous déchirent à l'envi. Au moment où nous t'écrivons, l'argent circule à profusion et une troupe de loups enragés se jette sur notre siège épiscopal comme sur une proie. Chrysostome alors était malade, et le froid de l'hiver aggravait encore l'infirmité qui l'affligeait. Mais le péril de la foi l'appelant, il n'hésita pas à partir. Son embarquement fut fixé au 9 janvier de l'année 401. Avant son départ, il remit la direction de sa métropole et la charge de le remplacer dans la prédication à Severianus ou Sévérien, évêque de Gabal en Syrie, qui était son compatriote et qu'il croyait son ami. Ce Sévérien s'était fait une sorte de réputation dans la ville par des discours où il cherchait à singer l'archevêque, mais qui assaisonnait un peu trop de son rude accent syrien. Nous ferons bientôt plus ample connaissance avec ce personnage qui nous offrira un des types les plus complets de l'évêque de Cour dans la capitale de l'Orient. Chrysostome avait envoyé en avant pour l'attendre dans le port d'Apamée, où il se proposait de débarquer, Cyrinus de Chalcédoine et Paul d'Héraclée. Ils devinrent plus tard ses ennemis, ainsi que Palladius d'Hélénopolis, qui de moins lui resta fidèle. Au moment où l'archevêque quitta le port de Constantinople, la mer était calme, et le navire cingla d'abord sans encombre du Bosphore dans la Propontide, mais là, un vent du nord violent s'élevant tout à coup le poussa avec une telle impétuosité vers la côte d'Asie que le pilote craignit d'être jeté sur les écueils de Proconèse. Il tourna l'île, fit plier les voiles et se garant derrière le mont Triton, il jeta l'ancre et attendit un vent plus favorable. Ce vent, qui était celui du sud-ouest, soufflant au bout de 3 jours, lui permit d'aborder au port d'Apamée. Durant cette relâche forcée, Chrysostome, Cédiaque et ses serviteurs passèrent 2 jours sans manger. Le patron de la barque, qui comptait sur une courte traversée, ne s'était muni de vivres que pour un jour. Entré enfin dans Apamée, demi-mort de faim et de fatigue, il y fut reçu par les 3 évêques qui l'attendaient, et quand ses forces furent un peu revenues, il prit avec ses compagnons la route de terre pour gagner Éphèse. Leur premier soin à leur arrivée dans cette ville fut de convoquer les évêques de Lydie, d'Asie et de Carie. Ils se trouvèrent en tout 70. Mais déjà beaucoup d'entre eux, avertis par le bruit public, étaient en chemin pour se rendre au synode. D'autres y arrivaient aussi de districts plus éloignés et même des villes de la Phrygie, attirés par la curiosité ou par le désir d'admirer, de près, le grand orateur. L'affaire instante d'Éphèse était l'élection qui se préparait pour le remplacement d'Antonin. Or, on avait pu espérer que la présence d'un synode et surtout l'autorité de l'archevêque de Constantinople imposerait aux mauvaises passions de la populace et aux brigues corruptrices des candidats. Il n'en fut pas ainsi. L'impudence des compétiteurs, l'acharnement des partis, l'agitation de la multitude persistèrent comme auparavant. Les places, les rues, les maisons, l'église retentissaient de diffamations que les concurrents se jetaient mutuellement à la face, se traitant d'impies, de voleurs, de sacrilèges et déshonorant d'avance en leur personne la dignité à laquelle ils osaient aspirer. Ce spectacle révolta le rigide Chrysostome. Effrayé d'une élection faite sous de tels auspices, il s'entendit avec une portion du clergé et des évêques pour prévenir le triomphe de ces misérables, et de concert entre eux, une sorte de coup de théâtre fut préparé. Après un discours dans lequel, déplorant la division des esprits, il représenta avec une éloquence entraînante le déshonneur et l'affliction qui en rejaillirait sur l'Église, l'archevêque proposa, comme moyen de pacification, le choix du diacre Héraclide, qui l'accompagnait. Il y eut d'abord grand étonnement. Puis les gens de bien se mettant de la partie, la proposition rallia peu à peu beaucoup de voix. Bref, Héraclide fut élu. C'était un ancien moine de Cété, assez renommé pour son savoir dans les lettres profanes et plus encore dans l'exégèse des saintes écritures. L'archevêque, sans perdre un moment, procéda à son ordination avec le concours des 70 membres du concile, tout ébahi d'un si brusque revirement des choses. Produit d'une surprise électorale, surprise honnête et heureuse pourtant, l'ancien diacre de Chrysostome ne jouit pas longtemps des honneurs qu'il devait à son éloquence. Nous le verrons bientôt, chassé, déposé par un autre concile, rétabli, emprisonné, martyr enfin, suivant la fortune de son protecteur. Car ces petites républiques ecclésiastiques rappelaient par leur turbulence et leur mobilité les révolutions des anciens gouvernements démocratiques de l'Asie. L'affaire de l'élection terminée, on passa à l'apurement des comptes de l'église d'Éphèse et aux évêques accusés de trafic simoniaque. Le lâche Eusébius, qui avait vendu son silence à Antonin, reparut devant le synode, sollicitant son pardon et s'offrant à produire contre les 6 évêques dénoncés les témoins qu'il avait jadis promis. Le scandale était trop grand pour que le synode n'eût pas à cœur d'y mettre fin. Les 6 évêques étaient présents, on autorisa la comparution d'Eusébius, on fit lire les actes de ce qui s'était passé l'année précédente à Constantinople, et l'assemblée, se formant en cour de justice sous la présidence de Chrysostome, procéda sans retard à l'audition des témoins. Dans le nombre se trouvaient des prêtres et des laïcs, des hommes et des femmes. Les 6 évêques spécialement chargés par leur déposition nièrent d'abord avec audace. Mais les témoins soutinrent fermement leur dire, circonstancièrent toutes choses, indiquant la nature des présents faits à Antonin, leur valeur, le temps, le lieu où ces présents avaient été remis à chacun des accusés. Il ressortait de ces témoignages une telle évidence que ceux-ci commencèrent à balbutier et à se couper dans leurs réponses. Quelques prêtres qu'ils avaient appelés comme témoins à décharge se récusèrent alors, retenus par la honte de leur rôle ou par le cri de leur conscience. Les accusés avouèrent enfin. « Il est vrai, dirent-ils, que nous avons donné cet argent. Mais nous nous croyons autorisés par la coutume, et notre seule prétention, en briguant l'épiscopat, était de nous faire exempter des fonctions de la curie et des charges que la magistrature impose. Maintenant, ajoutait-il, deux parties sont à prendre à notre égard. Ou nous laisser sur nos sièges épiscopaux, si la chose est possible et honnête, ou nous faire rendre l'argent que nous avons dépensé pour les acquérir. Plusieurs d'entre nous, non seulement sont ruinés, mais ils ont livré jusqu'aux bijoux de leurs femmes, jusqu'aux meubles de leur maison. Il est juste que tout cela leur rentre. » La question était ainsi posée avec netteté. Évidemment, le synode ne pouvait pas annuler le jugement qu'il était venu rendre en légitimant les conséquences de la simonie dans la personne des accusés eux-mêmes. Il déposa donc sans hésitation les 6 évêques et subrogea à leur place 6 hommes que leur caractère de probité et de désintéressement semblait désigner dans la circonstance présente. Chrysostome, qui fit rendre les décrets de déposition et de subrogation, approuva d'ailleurs la demande des évêques déposés d'être réintégrés dans les dépenses qu'ils avaient faites. « Cela est juste, leur dit-il, mais cela ne me regarde pas. C'est à vous de poursuivre les héritiers d'Antonin en restitution, conformément au décret du synode. Poursuivez ces héritiers d'un évêque simoniaque, ce sera pour tout le monde une leçon salutaire. Autrement, si cette coutume s'invétérait, nous serions réduits à l'état des patriarches juifs et égyptiens qui vendent et achètent tous les ans le sacerdoce, et nous aurions mérité cette malédiction du prophète Michée, ces prêtres répondaient avec des présents, et ces prophètes annonçaient l'avenir pour de l'argent. En manière de consolation, Chrysostome leur permit de solliciter pour eux de l'empereur une exemption des charges de la curie. Il fit décréter aussi par le synode que bien que déposés, ils pourraient communier à l'intérieur du sanctuaire comme ayant été revêtus de la dignité épiscopale. Une fois en train de réformer et de sévir, le terrible justicier ne s'arrêta pas en si beau chemin, et ce fut son tort. De la province d'Asie, son ardente inquisition se porta sur les provinces voisines, la Lycie, la Carie, la Pamphylie, la Phrygie, le Pont. Ce fut une enquête sur les évêques d'une moitié de l'Empire d'Orient, faite de concert avec cette cour synodale qu'il présidait. Enquête trop rapide, malheureusement, car il accusait, jugeait, déposait, remplaçait sur la seule renommée publique dans la plupart des cas. Or, il faisait tout cela en dehors de sa juridiction et sans y être appelé par les villes et les églises. En moins de 3 mois, 13 évêques, quelques-uns disent 15 et même 16, furent jugés, cassés, remplacés par des successeurs qu'on leur envoyait tout ordonné. La terreur régnait dans les diocèses d'Asie. En quittant la province proconsulaire d'Éphèse, Chrysostome voulut passer par la Bithynie, où il avait un acte de justice exemplaire à exercer, et s'étant arrêté à Nicomédie, capitale de la province, il cita devant lui le métropolitain nommé Gérontius. L'histoire de ce personnage est curieuse et donne une étrange idée des mœurs ecclésiastiques de cette époque. Gérontius était occidental, médecin de formation. Il avait exercé son art dans la ville de Milan en y joignant un peu de magie, au moins de cette magie chrétienne qui consistait à communiquer avec le diable, à le dompter par des exorcismes, à le reconnaître enfin sous les diverses formes que l'esprit de malice sait prendre pour se glisser parmi les hommes. Ce charlatan mystique s'était acquis par ses manœuvres une sorte de réputation de sainteté. Ambroise lui-même, le grand archevêque, s'y était laissé prendre et avait admis Gérontius comme diacre dans son église. Revêtu d'un caractère sacré et des pouvoirs qui l'accompagnaient, l'ancien médecin se livra sans mesure à des opérations théurgiques dont il était peut-être la première dupe. Parvenu jusqu'aux oreilles d'Ambroise, ses sornettes impies l'indignèrent. Il interdit Gérontius et le chassa de son église. Le diacre expulsé reprit son état de médecin, alla demeurer à Constantinople et grâce à son habileté dans son art, grâce surtout à son savoir-faire, il devint une sorte de personnage, prit pied à la cour de l'empereur, qui était alors Théodose, gagna la protection de quelques grands et put être protecteur à son tour. Dans cette situation, il rendit un service signalé au fils d'Eladius, évêque de Césarée en Cappadoce, et exarque de tous les diocèses du Pont. Celui-ci, qui savait son histoire, le fit rentrer dans l'église, l'ordonna prêtre, puis évêque de Nicomédie, le tout par reconnaissance. Gérontius, élevé si haut, ne négligea rien pour se faire aimer de son clergé et de sa ville. Il y réussit, mais sa scandaleuse nomination souleva la conscience des Occidentaux. Nectaire régissait alors l'église de Constantinople. Averti par Ambroise, il crut de son devoir de déposer un pareil évêque et il le somma d'abdiquer de son plein gré pour éviter le jugement canonique. Gérontius s'y refusa impudemment, brava toutes les menaces et continua de porter le bâton épiscopal à Nicomédie, n'épargnant d'ailleurs ni ruse, ni argent, ni même l'assistance de son art comme médecin pour s'enraciner dans l'affection des Nicomédiens. C'est à un tel homme que Chrysostome vint s'attaquer à son tour. Vainement, Gérontius voulut prendre vis-à-vis de lui l'attitude qui avait fait reculer Nectaire. Chrysostome, aussi décidé que son prédécesseur, avait été méticuleux et hésitant. Il déposa le métropolitain de Nicomédie et le remplaça sur le champ par le philosophe Pansophius, ancien précepteur de l'impératrice, depuis devenu prêtre, puis évêque de Pisidie. Et toutefois, cette exécution ne fut pas du goût des Nicomédiens. Leur évêque leur convenait, ils crièrent à la tyrannie. On les vit même faire des processions en chantant des litanies comme dans les temps de peste, de famine, de sécheresse, en un mot de grande calamité publique, pour demander à Dieu le retour de Gérontius. L'opposition alla si loin que ceux d'entre les Nicomédiens qui habitaient Constantinople firent les mêmes démonstrations dans la ville impériale et presque sous les murs du palais d'Arcadius. C'était une protestation solennelle contre l'ingérence de Chrysostome dans les diocèses étrangers. Tout cela avait passé comme une tempête qui ébranlait jusqu'aux églises que son souffle n'avait point touché. Une longue agitation suivit cette expédition. Quelque louables que soient les intentions d'un homme, quelle que soit la bonté des mesures qu'il prend sur lui d'exécuter, on ne fait jamais le bien tout seul. Et pour qu'il soit accepté et fécond, il faut que tout le monde approuve les formes suivant lesquelles il s'accomplit. C'est ce qu'on ne tarda pas à reconnaître dans la circonstance présente. L'année n'était pas encore écoulée que le justicier se voyait jugé à son tour et condamné par un concile. Premièrement, pour être sorti de sa juridiction, avoir envahi des églises étrangères et y avoir ordonné des évêques. Deuxièmement, pour avoir déposé des ecclésiastiques sans les entendre. Troisièmement, pour avoir, sans l'assistance du synode local et sans consulter le clergé des églises, fait des ordinations désapprouvées par lui. Quatrièmement, pour avoir, à son insu sans doute, et par trop de précipitation, ordonné évêque des esclaves non encore affranchis et de plus entachés de crimes. Cinquièmement, pour avoir été tout à la fois accusateur, témoin et juge dans le procès de plusieurs ecclésiastiques, entre autres dans celui de Proérèse, évêque de Lycie. Sixièmement, pour avoir ordonné en violation des canons plusieurs évêques en masse et quatre d'une seule fois. Ces faits se reliaient en majeure partie aux affaires de l'Asie. Les évêques déposés, Gérontius en tête, se portaient ses accusateurs, tandis que les nouveaux nommés, chassés par les clergés locaux et les villes, étaient déposés à leur tour comme usurpateurs des sièges d'autrui. Ce voyage ne fut pas moins funeste à Chrysostome dans l'intérieur de sa propre église. En vain, Sérapion lui écrivait-il lettre sur lettre, l'avertissant que Sévérien le trahissait et que sa présence devenait de jour en jour plus nécessaire pour sauver lui-même et son troupeau. Entraîné par le travail de réforme qu'il avait à cœur d'achever, il venait de passer 3 mois et demi hors de Constantinople quand il atteignit le Bosphore à Chalcédoine. Voici ce qui était arrivé dans l'intervalle et ce qui excitait à juste titre l'appréhension de ses amis. J'ai dit plus haut comment, sur son départ, l'archevêque avait confié le soin de son église à son compatriote Sévérien, évêque de Gabale. Assez renommé sur les bords de l'Oronte pour sa facilité de parole, quoiqu'il eût d'une façon très marquée en prononçant le grec l'âpre et dur accent de son pays, ce prélat syrien était venu se faire juger dans la ville impériale, curieux d'en rapporter la double moisson d'argent et de gloire qui était le but de ces prédicateurs ambulants. Depuis que la fortune extraordinaire de Jean d'Antioche avait mis la Syrie à la mode, cette vaniteuse province ne contenait plus ses prétentions. Elle tenait à montrer au reste de l'Orient que Chrysostome n'était pas le seul homme dont elle put se vanter, et qu'à son défaut, l'école de Libanius saurait encore donner à la ville de Constantin des orateurs et des évêques. Une rivalité jalouse s'était donc mise parmi les Syriens qui se piquaient d'éloquence chrétienne. Ils n'arrivaient pas à Constantinople sans une arrière-pensée d'éclipser l'archevêque. Quelque temps avant l'époque dont nous nous occupons, un certain Antiochus y avait fait applaudir sa belle prestance, sa voix pleine et sonore, et aussi une abondance de périodes fleuries dans lesquelles il ne fallait pas trop chercher des idées, mais qui étaient encore de l'éloquence pour des oreilles habituées aux cliquetis de mots des rhéteurs. Aussi Antiochus était-il retourné en Syrie chargé de richesses, et le peuple dans son enthousiasme l'avait-il gratifié du même titre que Jean d'Antioche lui-même, celui de Chrysostome ou Bouche d'or. Son exemple piqua d'honneur l'évêque de Gabale, qui voulut à son tour débuter dans la grande métropole d'Orient, et le fit sous le patronage de l'archevêque. C'était un homme plus sérieux que d'autres, plus savant dans les écritures, plus logique, et merveilleusement fait pour l'exégèse, quoiqu'il n'eût pas l'abondance oratoire d'Antiochus et que le dur accent guttural dont j'ai parlé gâta parfois les meilleures choses dans sa bouche. En retour du service qu'il recevait de l'archevêque, il affectait pour lui une admiration et un dévouement sans mesure. En réalité pourtant, Sévérien n'était qu'un ambitieux corruptible et un rival jaloux. Il ne fut pas difficile aux adversaires de Chrysostome de circonvenir un tel homme. Le mot d'ordre partit de la cour. On alla l'entendre, on l'applaudit, on le proclama supérieur à l'archevêque, et les courtisans admirèrent sans doute jusqu'aux grâces de sa prononciation syrienne, dont ils eussent fait autrement un objet de risée. Le but était de l'opposer à son ami dont on lui fit entrevoir la déposition et la succession prochaine s'il travaillait à le renverser. L'impératrice voulut le connaître, l'empereur le reçut fréquemment à sa table. Eugraphie surtout l'accapara et fit de lui la cheville ouvrière de ses intrigues. Il lui advint même à cette époque un honneur insigne qui semblait le prédestiner à la haute fortune qu'il rêvait. Augusta, étant accouchée au mois de février 401 de son quatrième enfant, qui fut Théodose II, au lieu d'attendre pour lui faire administrer le baptême le retour de l'archevêque, elle précipita au contraire la cérémonie afin que le nouveau-né reçut l'eau sainte des mains de Sévérien. Or, on sait que l'accomplissement de cet acte sacramentel conférait au prêtre sur le néophyte initié, par lui à la fois, un droit de paternité spirituelle et un lien religieux qui durait toute la vie. Sévérien ne fut plus dès lors un évêque étranger en passage à Constantinople, ce fut un prélat attaché à la cour et un successeur désigné à l'évêché de la métropole impériale. Un hasard fâcheux, ayant amené sur ses entrefaites Antiochus à Constantinople, Sévérien le conduisit près d'Eugraphie, qui l'enrôla dans sa faction, puis les deux évêques en recrutèrent un troisième, porteur d'un nom connu et respecté dans la chrétienté orientale. Il se nommait Acacius et occupait le siège épiscopal de Bérée. Les dernières années de sa longue vie, il avait alors plus de 80 ans, avaient été employées à aimer et à glorifier Chrysostome. C'est même lui qu'on avait délégué à Rome comme un ami sûr et déclaré du nouvel élu pour remettre au pape Siricius le décret de sa nomination et de négocier entre l'Occident et l'Orient la communion des deux églises et des deux évêques. Attiré depuis lors à Constantinople par on ne sait quelle affaire, Acacius se piqua d'un procédé fort innocent de l'archevêque son ami. Celui-ci voulut l'avoir à demeure dans son palais épiscopal et l'y logea de la même façon qu'il se logeait lui-même, c'est-à-dire dans un appartement fort simple et fort rustiquement meublé. Le vieil évêque, qui s'attendait à toute autre chose chez le premier prélat du monde oriental, s'imagina qu'on le traitait ainsi par mépris, ou plutôt la malveillance le lui insinua. Et comme l'âge avait grandement affaibli son esprit, il s'irrita outre mesure contre son hôte. « S'il me dédaigne, osa-t-il dire, je le lui rendrai bien, et je lui assaisonne un bouillon qu'il ne boira pas volontiers. » Il s'affilia au conciliabule de Graphie. Tels étaient les graves événements qui précédèrent le retour de Chrysostome. En abordant au port de Constantinople, l'archevêque fut reçu par un peuple immense qui encombrait le quai et les rues voisines, ébranlant l'air de ses cris de bienvenue. Il gagna l'évêché sous l'escorte de ses masses fidèles, ou plutôt enlevées sur leurs bras. Arrivé à la porte de sa demeure, il les congédia, remettant au lendemain, à cause de sa grande fatigue, les remerciements qu'il voulait leur adresser, et il leur donna rendez-vous dans sa basilique. Le lendemain, comme on le pense bien, l'assistance se trouva au complet. Chrysostome parla, et nous avons encore son discours, discours plein d'ardeur et d'onction, où respire la joie du prêtre qui revoit son église, qui remet le pied dans la patrie de son cœur, qui retrouve au retour son fidèle troupeau tel qu'il l'avait laissé au départ. Mais il ne dissimule rien. Loin de jeter un voile sur ce qui s'est passé en son absence, sur les noires trahisons de gens qu'il ne nomme pas, il part de là pour remercier ce peuple qui s'est refusé à leur provocation coupable. « Je vous rends grâce, dit-il à la foule qui se pressait sous la chaire, je vous rends grâce de m'avoir montré en dépit des tentations dont vous étiez assiégés une fidélité à l'épreuve de tout. Vous avez été la chaste épouse qui ferme l'oreille aux propos adultères pendant l'éloignement de l'époux. Vous avez été le chien vigilant qui garde le troupeau en l'absence du berger. Vous avez été les nautonniers qui conduisent le vaisseau déserté par le pilote. Les soldats qui, privés de général, ne laissent pas de remporter la victoire. » C'est là le fond du discours, l'allusion y est palpitante. L'évêque offensé veut qu'on sache qu'il connaît et juge Sévérien, qu'il connaît aussi les menées de la cour, mais qu'aucune crainte ne trouble son âme vis-à-vis de son ingrat ami. Ses paroles, en le relevant de ses pouvoirs, furent marquées au coin d'une juste rigueur. Il lui reprocha sa vie mondaine, ses fréquentations au palais impérial et les festins après lesquels il semblait courir par opposition aux habitudes austères dont lui-même Chrysostome avait fait la règle de son évêché. « Antiochus et toi, dit-il, vous menez la vie des parasites et des flatteurs. Vous êtes devenu la fable de la ville, et c'est vous que la comédie joue sur les théâtres. » Quelques jours après, choisissant pour texte de son sermon un verset du livre des rois, il s'écriait du haut de la chaire. « Rassemblez autour de moi ces prêtres du déshonneur qui mangent à la table de Jézabel, afin que je leur dise comme autrefois Élie, jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Si Baal est Dieu, marchez derrière lui. Si la table de Jézabel est aussi un Dieu, mangez-y, mangez-y, jusqu'au vomissement. Ces paroles causèrent une violente rumeur au palais. Les rapports s'envenimaient chaque jour entre Chrysostome et son ancien subrogé devenu son rival. Gonflé d'espérance et de prétention, celui-ci affectait dans une église où il était étranger l'attitude d'un archevêque légitime qui attend de moment en moment la déposition de l'intrus. Une crise était imminente. Elle arriva par l'inconvenance d'un de ses dangereux amis que Jean Chrysostome avait à ses côtés et qui semblait d'accord avec ses ennemis pour l'environner d'orage. Un jour que Sévérien traversait la tête haute dans son faste et son arrogance habituelle, la basilique ou l'un des lieux y attenant, Sérapion, qui était assis sur son passage, ne se leva point, comme devait le faire un diacre, par honneur pour un évêque, mais resta sur son siège, le regardant d'un air dédaigneux. Sévérien en fut offensé, et s'approchant du diacre, il lui dit de manière à être entendu d'une partie des gens qui se trouvaient là, « Si Sérapion meurt chrétien, le Christ ne s'est pas fait homme. » Et il continua son chemin. Sérapion, sans désemparer, fit appel à quelques-uns des témoins de la scène, lesquels, selon toute apparence, appartenaient à l'Église, et se rendit avec eux chez l'archevêque, où il accusa Sévérien d'avoir blasphémé en disant que le Christ ne s'était pas fait homme. Les témoins qui l'amenaient confirmèrent sa déposition, soit qu'ils supprimassent à dessein le commencement de la phrase qui en déterminait le sens, soit qu'ils n'eussent entendu que la fin. Quel que fût le sens des mots adressés par l'évêque de Gabal à Sérapion, Chrysostome les trouva également coupables. S'il n'avait pas voulu proférer l'impiété dont on l'accusait et affirmer tout simplement que l'incarnation du Fils de Dieu était un mensonge, au moins avait-il pris le nom du Sauveur en vain et profané par un emploi frivole la redoutable formule de nos mystères. De la part d'un prêtre, ce second crime égalait presque le premier au jugement de Chrysostome. Faisant donc venir Sévérien, il le retrancha de sa communion, lui interdit l'entrée de toutes ses églises et, au dire des historiens, le condamna à sortir de Constantinople. Cependant, le bruit de ce débat ayant transpiré au dehors, des hommes du peuple employés aux affaires de la basilique, principalement les décanies ou dizainiers, chargés de l'enterrement des pauvres, répandirent dans le quartier la nouvelle que Sévérien insultait l'archevêque. Il n'en fallut pas davantage pour qu'en quelques minutes une foule ameutée n'accourût vers l'archevêché, comme si les jours de Chrysostome eussent été menacés. En de telles circonstances, Sévérien crut qu'il n'avait rien de mieux à faire que de quitter la ville. Gagnant le port précipitamment, il prit une barque et passa à Chalcédoine. Le temps avait manqué au fugitif pour aviser la cour de son aventure et se placer sous la sauvegarde de Doxie. Mais informée de tout par ses partisans, l'impératrice adressa de vives plaintes à l'archevêque, ordonnant de plus que Sévérien rentrât sous le plus bref délai à Constantinople. Celui-ci ne se le fit pas dire deux fois et repassa triomphalement le Bosphore. Ce n'était pourtant là qu'une réparation incomplète, car l'interdit ecclésiastique subsistait et ne pouvait être levé que par l'archevêque lui-même. Eudoxie l'en sollicita ardemment à plusieurs reprises. L'empereur lui-même le demanda, mais sans succès. Chrysostome refusa non seulement de recevoir le faux ami, l'impie, dans sa communion, mais de lui parler et de le voir. Humiliée de la résistance de ce prêtre et non moins opiniâtre que lui, l'impératrice prit une de ses résolutions violentes en rapport avec l'impétuosité de son caractère, et elle saisit l'occasion d'une grande fête à l'église des apôtres pour amener entre elle et son adversaire une scène publique et décisive. Entrée subitement dans la basilique avant le commencement du sacrifice, sans autre suite que le jeune Théodose, portée à bras derrière elle, elle traversa la nef à grands pas, pénétra dans le chœur et, arrivée en face de l'archevêque, assis sur son trône au fond de l'abside, elle déposa l'enfant sur ses genoux. Puis elle le conjura sur la tête de ce fils, rejeton du grand Théodose, de pardonner à Sévérien. Plusieurs fois, elle répéta son adjuration à haute voix et la main étendue sur son enfant. Chrysostome, étonné, balançait. La vue de cet enfant déjà auguste et qui aurait un jour besoin de pardonner le toucha sans doute. Il pardonna. Ce n'était pas tout du pardon de Chrysostome. Il fallait encore celui du peuple, attaché à la cause de son évêque plus vivement que lui-même peut-être. En effet, depuis le retour de Sévérien, il ne se passait pas de jour que des rixes parfois sanglantes ne montrassent la ferme volonté du peuple de faire respecter, vis-à-vis d'un traître et d'un usurpateur, l'honneur et le droit de son chef spirituel. Une de ces rixes avait même dégénéré en sédition, et Sévérien n'eut pas osé, sans péril pour sa vie, forcer l'entrée des églises qui lui étaient interdites et dont le peuple s'était constitué le gardien. Ce dévouement absolu et presque fanatique créait pour Chrysostome une situation délicate. Il comprenait qu'il ne pouvait trahir des sentiments qui faisaient son orgueil et sa sécurité. Et tout en pardonnant sur les instances du prince et d'Augusta, il avait dû songer à sa propre justification devant ses défenseurs et ses amis. Les hommes rudes et passionnés qui s'étaient compromis pour sa cause avaient besoin de savoir pourquoi il faisait la paix. Et dans une affaire devenue commune entre eux, il conservait un droit d'approbation ou de blâme sur sa conduite. Il pouvait la condamner ou l'absoudre. Chrysostome le jugeait ainsi. Il voulut donc obtenir du peuple une réconciliation publique, à ses yeux du moins, inséparable de la sienne. Alors eut lieu dans la basilique épiscopale une de ces grandes scènes du forum chrétien qui jette tant d'animation et d'éclat sur l'histoire ecclésiastique des premiers siècles. Du haut de sa chaire, il se présenta à l'auditoire, pressé à ses côtés comme un ambassadeur qui propose la paix et veut qu'elle soit ratifiée. Par une faveur inappréciable du hasard, son discours, non compris dans le recueil de ses œuvres telles que nous l'avons aujourd'hui, a été retrouvé dans une ancienne traduction latine, ainsi que celui par lequel Sévérien vint à son tour devant le même auditoire demander merci. On verra dans les ménagements du langage et les timidités dans les paroles de Chrysostome son empreinte, à quel point ce peuple inflammable était ménagé par les chefs, même de son choix, et combien dans cette sorte de démocratie religieuse fondée par Chrysostome à Constantinople, le tribun avait à compter avec son forum. De même que le corps adhère à la tête, dit-il au début de son allocution, l'Église adhère au prêtre et le peuple au prince. Comme aussi l'arbuste ne saurait se séparer de sa racine et le fleuve de ses sources, ainsi les fils sont inséparables du père et les disciples du maître. Ce que je vous dis là n'est pas un vain rappel à votre attachement pour ma personne, mais comme j'ai à vous entretenir de choses graves, il faut que nul ici ne soit troublé ni ne trouble, et qu'aucune interruption ne s'élève pendant que je parle. » L'obéissance des disciples pour le Maître, l'affection des fils pour le Père, doivent apparaître en vous tout entière. Ô mes fils, ornez-moi de vos vertus, placez sur mon front la couronne de votre obéissance, faites que tous me jugent heureux de posséder un tel troupeau, et glorifiez mon enseignement par votre soumission, selon le précepte de l'apôtre qui nous dit « Soyez soumis à vos chefs, car ils veillent pour vous et rendront compte un jour de vos âmes. » Je ne vous devais cet avertissement de peur qu'aucun de vous ne soit révolta contre une réprimande que je veux vous adresser. Je suis père et dois conseil à mes enfants. Ce devoir que la nature met au cœur du Père naturel, la grâce de l'Esprit-Saint l'a mis au mien. Oh oui, je suis Père, et Père tellement tremblant pour ses fils, que je suis prêt à répandre ici même mon sang pour vous. Mais vous, n'en feriez-vous pas autant pour moi? Nos liens sont communs, nos devoirs les mêmes, et je pourrais écrire de vous ce que disait saint Paul de ses disciples chéris. Saluez de ma part Priscilla et Aquila, mes compagnons et auxiliaires dans le Christ, eux qui ont offert pour moi tête pour tête. Non, point de séparation entre les frères, c'est ainsi que la ville est forte et la citadelle inexpugnable. Le loup dévorant, le diable n'attaque point des cœurs unis. Et un rempart de charité vaut mieux pour notre défense qu'un rempart de diamant. Je mets en avant ces vérités comme une préface à mon discours, afin que vous ne soyez ni surpris ni troublés de ce que je vais vous dire. Et je vous parlerai en effet d'une chose digne d'être exposée dans une église et digne d'y être écoutée. C'est de la paix que je vous parlerai. Rien ne convient mieux à un prêtre de Dieu que de parler de paix à son peuple, et plus le sujet de l'ambassade est saint, plus l'ambassadeur a besoin de se savoir écouter. La paix, c'est pour l'apporter aux hommes que le Fils de Dieu est descendu en ce monde et a pacifié par son sang non seulement les choses d'ici-bas, mais celles d'en haut, afin qu'il n'y eut plus guerre désormais entre la terre et le ciel. C'est pour la paix que le Fils de Dieu a souffert et qu'il a été crucifié et enseveli, et il nous l'a laissé en héritage comme un mur de défense à l'Église, un bouclier contre l'enfer, un glaive contre les démons, un port tranquille pour les cœurs fidèles, une repropitiation de nos âmes vers Dieu et une absolution de nos fautes. Oui, c'est pour cette paix sainte, ce don sacré que je suis envoyé vers vous en ambassade. Ne me rejetez pas, je vous en supplie. Ne faites pas que je sorte d'ici comme un ambassadeur chassé, le deuil au cœur, la rougeur au front. Oui, sans doute, je l'avoue devant Dieu, il s'est passé depuis longtemps dans cette église de tristes choses. Mais ce n'est point une raison pour que j'applaudisse au désordre, pour que j'approuve vos séditions. Laissons plutôt tout cela de côté, oublions-le, et vous cessez vos agitations, rentrez dans le calme, redevenez maître de vous-même. Dieu le veut, et c'est aussi le désir de notre très pieux empereur. Il faut en effet obéir aux princes, surtout quand ceux-ci obéissent aux lois de l'Église. L'apôtre disait « Soyez soumis aux princes et aux puissances ». Combien plus encore faut-il l'être quand le prince protège la religion et soutient l'Église? Si donc, par ce préambule, j'ai préparé vos esprits à écouter favorablement l'ambassade que je vous apporte, recevez notre frère Sévérien. Cet habile et touchant discours Ce nom de Sévérien suspendu jusqu'à la fin comme un mot que l'orateur craint de prononcer et qui doit entraîner ou repousser l'auditoire, tout cela eut l'effet qu'on attendait Chrysostome. L'assemblée tout entière se leva, éclatant en applaudissements, et ces applaudissements répétés, universels, montrèrent aux pacificateurs que la paix était acceptée. Quand le tumulte fut apaisé, il reprit. « Je vous rends grâce à présent d'avoir si bien accueilli mes paroles. Vous m'avez donné les fruits de votre soumission et j'ai le droit de me féliciter d'avoir semé le bon grain. Eh bien donc, ne perdons point de temps. Rassemblons sans délai les gerbes de notre moisson et que le Seigneur Dieu vous rende le prix de l'obéissance et de la bonté du cœur. » Vous venez d'offrir au ciel la vraie victime de propriation. Quand vous avez entendu ce nom sans vous troubler, et qu'à ma voix toutes les fumées de la colère se sont dissipées, pour ne laisser voir en vous que la charité. Recevez-le donc les bras ouverts et le cœur calme, libre de tout ressouvenir amer. Aucun germe de dissension ne doit survivre lorsque la paix est conclue, afin qu'il y ait joie au ciel, joie sur la terre, liesse et exaltation spirituelle dans l'Église de Dieu. Sévérien n'était pas là. Sa présence eût tout fait échouer, puisque son nom même n'avait pu être prononcé qu'avec des précautions infinies. Mais il fallait qu'il acceptât cette paix que lui accordait Chrysostome et qu'il vint à son tour la proclamer devant le peuple. Ce fut la seconde partie de cette grande scène et elle se passa le lendemain dans la même église devant un auditoire plus nombreux, plus animé s'il était possible. Le discours de Chrysostome avait été un chef-d'œuvre d'adresse et de persuasion. Celui de Sévérien n'est qu'une amplification du rhéteur et nous donne l'idée de ce qu'était cette éloquence syrienne, si fleurie, si recherchée, si contournée, quand le génie ne venait pas la vivifier. Au milieu de lieux communs très délayés sur les avantages de la concorde, il explique les dissentiments survenus dans l'église de Constantinople par l'intervention de Satan. Il avait bien raison. Satan s'était glissé là, dans la communion du protecteur et du protégé, du chef et du subordonné, comme autrefois entre le Christ et Judas au banquet de la Pâque. « La paix, dit-il, c'est le nom même du Christ, car l'apôtre nous dit « le Christ est notre paix ». C'est elle qui de deux choses ne fait qu'une. Tandis que par la jalousie du démon, deux cœurs communs dans la foi se divisent et se combattent. Mais comme à l'arrivée d'un roi, les rues et les carrefours se décorent avec magnificence, comme la ville entière se tapisse de soie et se couronne de fleurs afin que rien n'apparaisse qui ne soit digne de l'aspect royal, ainsi, en ce moment où vient au milieu de nous le Christ, roi de la paix, écartons tout souvenir triste. Que le mensonge fuit devant la vérité, la guerre devant l'union des âmes. De même aussi que dans les tableaux de nos villes où sont représentées les images des augustes frères qui nous gouvernent, l'artiste place derrière eux la concorde en habit de femme qui les enceint de ses bras maternels, indiquant par là qu'ils sont séparés de corps, ils ne le sont ni de sentiment ni de volonté. Ainsi maintenant la paix du Seigneur, assise au milieu de nous et nous étreignant contre son sein palpitant, force nos deux âmes à n'en faire qu'une seule en des corps séparés. Hier, notre Père commun, dans un discours où respire l'Évangile, nous offrait les préliminaires de la paix. C'est la paix elle-même, c'est le traité que j'apporte aujourd'hui. Hier, les mains levées vers le ciel, il nous recevait au nom de la paix, et c'est avec ces divins présents que nous allons au-devant du Seigneur, les bras ouverts et la poitrine dilatée. La guerre est détruite, c'est la paix qui règne. La paix était donc jurée au pied des autels entre les mains du peuple de Constantinople, juge et ratificateur. L'histoire témoigne que ce ne fut pas Chrysostome qui la rompit. Ainsi se dissipa ce premier orage, orage d'avertissement et de menace pour l'archevêque, pour l'Église, pour l'État. Au même moment, il s'en formait un second aux extrémités de l'Empire d'Orient, non loin de la vallée du Nil, et un souffle ennemi de Chrysostome le poussait d'Alexandrie vers Constantinople. Celui-là portait dans ses flancs la ruine et la mort.